Donc, on vous invite à ouvrir vos Bibles dans Proverbes au chapitre 3. On va prier et après ça, je vais lire le passage. Merci Seigneur pour cette matinée que tu nous accordes, pour cette grâce que tu nous permets, Seigneur, d'avoir, quand à prendre, Seigneur, un moment dans l'étude de ta parole, dans le partage avec nos frères et nos sœurs. Merci des capacités techniques que tu nous as accordées afin d'être malgré tout rassemblés en dépit, Seigneur, des circonstances qui sont nôtres. Non seulement, Seigneur, permets-tu à la congrégation ici à Montréal de continuer à avoir contact et de se bénir mutuellement à travers Internet, mais tu nous permets aussi d'atteindre des gens qui nous sont chers, mais qu'on n'aurait pas pu voir ou avec lesquels on n'aurait pas pu échanger, n'eût été l'Internet et les outils techniques que tu nous donnes. Donc, merci pour chacune de nos sœurs, pour chacun de nos frères qui se joignent à nous à tous les matins, afin, Seigneur, de plonger nos regards dans ta parole. Ce matin, on te demande d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre pensée et de nous bénir par ta présence et par ta riche grâce parmi nous. J'appelle ta bénédiction sur la vie de ma sœur, j'appelle ta bénédiction sur la vie de mon frère, et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue parmi nous en ce jeudi 5 novembre 2020. On étudie encore sous la thématique « Instruction à mon fils ». Comme si Dieu nous disait « Voici ce que je veux que vous sachiez ». Donc, « Instruction à mon fils » et on tire notre enseignement cette semaine des 4 premiers versets du chapitre 3 de Proverbes. Donc, je vous invite à ouvrir et plonger votre regard avec moi dans le chapitre 3 de Proverbes. J'y vais à partir du verset 1. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Je reprends le verset 4. « Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tout au long de cette semaine, on a vu différents éléments que Dieu nous a donnés, que Dieu veut voir comme partie intégrale de notre vie, comme partie importante de notre existence. On a vu le 4 termes en hébreu, Torah, Mitzvah, Chesed et Emet. Et on a vu que Dieu voulait que ces 4 items, qu'on va reprendre, bien sûr, pour vous l'expliquer en français, pour ceux qui n'étaient pas là, mais Dieu veut qu'on ait ces 4 éléments présents dans notre vie. Et il nous dit ici qu'en ayant ces choses, on acquerra ainsi la grâce et une raison saine, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Alors, qu'est-ce qu'était la Torah? La Torah, c'était le code de conduite, les lois de Dieu, le code de conduite pratique de la vie du croyant, de la vie de l'enfant de Dieu. Le mitzvah, c'était les préceptes, les lois, mais précises de chacun, de ce code de vie que Dieu nous donne, mais c'était les lois morales que Dieu accorde aussi à ses enfants, pour qu'on sache non seulement comment agir avec le code de conduite, mais savoir aussi quelles sont les valeurs qu'il veut voir présentes chez nous. Et hier, on disait que nous devions avoir non seulement le chesed, mais le emet, donc la bonté et la fidélité qu'on avait rassemblé dans un groupe en disant, mais en fait, si on a l'amour divin, si on a le agapé, qu'on a dans le Nouveau Testament avec les termes grecs, si on a cet amour qui vient de Dieu, effectivement, nous serons à ce moment-là à même de vivre selon les principes, selon les préceptes, selon la pensée de Dieu et de lui être trouvé agréable. Donc, avec le Torah, le Mitzvah, le Chesed, le Emet, avec les enseignements, les préceptes, la bonté et la fidélité que Dieu veut voir présente chez nous, l'enfant de Dieu acquiert deux choses. Il acquiert, d'après ce verset, une raison saine et de la grâce. Deux termes qu'on va bien sûr expliquer pour nous ce matin. Le terme grâce, non, ce n'est pas chesed. Le terme grâce, ici, c'est le terme shem. Chem. Grâce, shem. Chem. Et la différence entre les grâces et grâce, entre kessed ou chesed et shem, c'est que le chesed qu'on a vu hier, c'était oui les actes de bonté, c'était le pardon non mérité que nous accordons à ceux qui nous ont offensés, comme nous le recevons aussi de la part de Dieu. Et si on parle effectivement ici de la grâce, donc de la bénédiction non mérité. Lorsqu'on parle de grâce ce matin, le terme qui est utilisé, shem, nous parle d'une faveur, d'un cadeau, nous parle d'un charme, nous parle d'une acceptation et d'une approbation. Donc le Seigneur est en train de dire, si on a effectivement ces préceptes, ces enseignements comme très présents dans notre vie, si on vit notre vie en démontrant de la bonté et en vivant une vie véridique, une vie véritablement ancrée et approuvée de Dieu, alors nous aurons de la grâce. Grâce comme faveur. Ça veut donc dire que Dieu va incliner le cœur des gens en notre faveur. Ou que la présence de la bonté, la présence de la vérité dans nos vies, notre acceptation des préceptes et des enseignements de Dieu va incliner le cœur non seulement de Dieu, mais le cœur des hommes en notre faveur. Très souvent, on se demande, mais comment se fait-il que les gens sont contre nous, que les gens sont en sempiternel combat avec nous? Et je comprends que nous sommes dans l'armée du Seigneur et que ce faisant, nous avons le diable et toutes ces hordes de démons qui sont contre nous. Mais la Bible nous dit malgré tout que si on a ce qu'on a mentionné tout à l'heure et que je répète peut-être pour une des dernières fois, les préceptes, les enseignements, la bonté et la vérité, à ce moment-là, la Bible dit que nous allons obtenir grâce, que nous allons obtenir la faveur non seulement de Dieu, mais aussi des hommes. Je pense que régulièrement, si on agissait avec un peu plus de bonté, si effectivement l'amour de Dieu se manifestait davantage à travers nous, à travers nos paroles, à travers notre attitude, à travers nos actions, assurément, ça influencerait les gens autour de nous et ça inclinerait très souvent le cœur des gens autour de nous. Malheureusement, très souvent, on confond une rigueur dans notre respect de la parole de Dieu et dans notre respect des règles et des règlements, des préceptes et de la pensée de Dieu. On confond cette rigueur quant à obéir à Dieu avec une rigueur, voire même une froideur glaciale dans la vie du croyant. Le croyant devrait être la personne la plus joyeuse qui soit. Je veux dire, on est sauvé, on est assuré de notre vie éternelle, on est assuré d'avoir l'approbation de Dieu sur notre vie, on a communion avec le roi des rois, on a accès à sa présence. Tout cela devrait nous rendre constamment, de façon inlassable, joyeux, mais profondément joyeux. Voilà pourquoi Paul, dans le Nouveau Testament, va dire à l'église de Philippe, je ne me lasse pas de vous répéter, soyez joyeux, réjouissez-vous toujours, soyez dans la joie. Il ne se lasse pas de le dire parce qu'à ses yeux, c'est important que le croyant manifeste Ça joue. Malheureusement, il y a trop de croyants qui se promènent comme s'ils avaient mangé du citron toute une matinée juste avant de sortir. C'est comme tu as encore pris un quartier de citron pour avoir l'air encore plus renfrogné, d'avoir le teint encore plus sévère. La parole de Dieu nous dit qu'une parole dure excite la fureur, mais qu'une parole douce calme la fureur. Alors si effectivement nous avions ce genre de paroles remplies de grâce, remplies de bonté, si nous avions cette attitude remplie d'amour, assurément les gens autour de moi, de nous, en seraient influencés et leur cœur se tournerait en notre faveur. Donc grâce, faveur. Grâce aussi, charme. Hier, on parlait que la bonté et la fidélité devaient être à notre cou comme un collier qui attire l'attention, un collier merveilleux que les gens admirent. Donc, que nous puissions avoir ce charme qui vient non pas de nos qualités physiques, qui vienne non pas de nos qualités intellectuelles, qui ne viennent pas non plus d'un faux semblant qu'on projette ou qu'on affiche devant les gens, mais qui viennent du fait que nous sommes en paix, profondément en paix, que nous sommes joyeux, confiants, qu'on a l'assurance pour demain, en partant et de façon ultime, parce que Christ vit en nous. La présence de Dieu en nous, l'amour de Dieu à travers nous, la joie inlassable de Dieu qui nous est accordée, la paix qui dépasse l'entendement, surtout dans un temps aussi obscur et aussi inquiétant que celui qu'on peut vivre tous ensemble actuellement. Notre paix, notre joie devrait attirer, devrait être charmant, devrait charmer les gens, devrait être un point d'attraction pour que les gens viennent à nous. Salomon va rajouter, lorsqu'on parle de grâce ici, qu'on va faire en sorte non seulement d'attirer, mais qu'on va recevoir l'acceptation des gens et l'approbation des gens. Dans le terme shem, grâce, c'est non seulement la faveur, non seulement le charme qui est exercé auprès des gens, et quand je parle de charme, je parle de charme dans tout le côté positif du terme, pas dans le côté manipulateur du terme, mais dans tout le côté tout à fait agréable et positif du terme charme. La grâce, le shem, c'est que nous recevons aussi l'acceptation et l'approbation des gens. Les gens sont enclins à notre faveur, sont enclins par rapport à nos besoins, sont enclins par rapport à nos situations, parce que nous agissons avec bonté, parce que nous agissons avec la présence véritable de Dieu en nous et à travers nous, parce que nous respectons les règles divines qui font en sorte qu'on prend soin de la veuve, de l'étranger, de l'orphelin, de celui qui est indigent. Alors la présence des commandements de Dieu va faire en sorte que nous soyons aussi acceptés et approuvés par Dieu et par les hommes. Il nous dit par la suite que vous obtiendrez non seulement la grâce, le shem, mais vous obtiendrez aussi une raison saine. Raison, c'est quelle? S-E-K-E-L, je répète, raison, c'est quelle en hébreu? S-A-K-E-L. Et saint, c'est un terme qu'on a déjà étudié à plusieurs reprises, le terme tob, T-O-W-B. T-O-W-B. Donc reprenons tout d'abord raison. La raison qu'on obtient en ayant la présence des règles, des commandements, des préceptes de Dieu dans notre vie et l'acceptation de ces commandements, de surcroît à la bonté et à la fidélité, nous obtenons une raison. Et la raison, c'est qu'elle veut dire prudence. Ça veut dire qu'on n'est pas enclin à courir vers le danger. Inconsciemment. On fait attention où est-ce qu'on pose les pieds, où on pose les pieds, parce qu'en même temps, on veut s'assurer que le chemin que nous suivons est agréable à Dieu, est approuvé de Dieu. On fait attention à nos paroles, on fait attention à nos actions, parce que nous comprenons qu'à travers nos paroles, je vais dépeindre Dieu, qu'à travers mes actions, moi qui en suis son témoin, les gens vont me regarder et par mes actions, ils vont non seulement avoir une opinion de moi, mais ils vont se faire aussi une opinion sur Dieu. Donc nous devons agir avec le séquel, avec la prudence. Nous obtenons aussi une compréhension des choses qui nous entourent. Donc on est capable de saisir ce qui se passe autour de nous et d'en déchiffrer le pourquoi et le comment. Parce que nous recevons de la part de Dieu sagesse et intelligence. Lorsque j'étudie la parole de Dieu, ça me permet de mieux saisir ce qui se passe autour de moi. Pensons simplement, la Bible nous dit, ce n'est pas contre la chair et contre le sang que vous vous battez, mais contre les esprits et les dominations. Ça veut donc dire que quand j'ai un conflit avec quelqu'un par rapport à ma foi, par rapport à la chrétienté, je ne dois pas percevoir celui qui est devant moi comme mon ennemi. C'est un pécheur, c'est un homme qui ne connaît pas le Seigneur, qui a besoin d'un sauveur comme moi j'en ai eu besoin, qui a besoin d'être éclairé par Dieu comme moi j'en ai eu besoin. C'est peut-être même un croyant, mais comme moi, qui est faible dans son corps, dans son âme, dans son esprit, qui a encore des choses qui doivent être changées, comme moi aussi j'ai des choses qui doivent être changées. Alors quand j'ai les préceptes de Dieu devant moi, je suis capable de saisir, de comprendre que mon frère, ma sœur devant moi n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est le diable. Mon prochain n'est pas mon ennemi. Mon ennemi est le diable. Oui, le diable peut se manifester à travers ceux qui m'entourent. Oui, il peut leur suggérer des actions à mon encontre. Mais mon ennemi, ce ne sont pas les gens qui m'entourent. Et ça, je le comprends lorsque je penche mes regards dans la parole de Dieu et lorsque je laisse cette parole m'éduquer. Alors à ce moment-là, effectivement, je viens à comprendre ce qui se trame, ce qui se passe, et comprendre et saisir que mon adversaire devant moi, ce n'est pas ce corps physique qui se présente devant moi, mais c'est l'esprit qui peut y avoir à l'intérieur de lui. C'est l'influence sous lequel ce corps agit, qui vient directement non pas de cet homme, mais qui vient directement du père du péché, qui vient directement du père de la tentation, qui vient directement du diable. Alors sachant être non seulement prudent en raison de la parole de Dieu, sachant aussi comprendre ce qui se passe à la lumière, à la clarté et selon la sagesse de la parole de Dieu. Mais ça nous donne aussi de la connaissance. Et la connaissance est autre chose que de la compréhension. La compréhension, c'est venir à saisir une chose, alors que la connaissance, c'est savoir la chose. Donc, je pourrais me présenter devant une situation et en raison des agissements des uns et des autres, j'en viens à saisir ce qui se passe et à comprendre le traquenard qu'on est en train de me tendre. La connaissance, c'est autre chose. La connaissance, c'est avoir cette clarté, cette intelligence, savoir un fait précis et non pas percevoir un fait précis. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous en venons à savoir que tous sont pécheurs, que tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous en venons à savoir des faits qu'on ne connaîtrait nulle part d'autre si ce n'est qu'à travers la parole de Dieu. Ça nous permet d'interpréter ce qui se passe autour de nous et de saisir ce qui se passe dans le monde différemment en y voyant selon la clarté, selon les prescriptions, selon la lumière que nous accorde la parole de Dieu. Mais il nous dit, vous aurez une raison qui est saine. Donc le séquel qui est tobe. Et tobe veut dire quoi? Veut dire qui est bon, qui est plaisant, qui est agréable, qui est excellent, qui est approprié. Il y a un tas de personnes qui ont un tas de connaissances, mais ces connaissances-là sont vides, d'importance, sont vides de sens jusqu'à un certain point par rapport au vécu. Je parlais avec une sœur la semaine dernière, elle me disait qu'elle écoutait un enseignement ou quelque chose sur Internet, puis elle s'est rendue compte que ce qui était prêché, ce qui était enseigné, était totalement faux par rapport aux Écritures, était une mauvaise interprétation des Écritures. Mais si je ne suis pas armé de la parole de Dieu, si je n'étudie pas les préceptes, les enseignements de Dieu, ben je ne saisirai pas ce qui est de lui et ce qui est tout simplement une déformation, un détournement de sa parole véridique à la base. Donc on va avoir, lorsque nous plongeons le regard dans la parole de Dieu, on va avoir non seulement la grâce qui attire la faveur, qui va charmer, qui va attirer l'approbation autour de nous, mais on va avoir aussi une raison qui dépasse les facultés intellectuelles d'un homme. Combien de fois le Seigneur va nous inspirer dans une conversation régulièrement. Mon épouse me dit dernièrement qu'elle est face à des nouveaux défis professionnel, et elle dit je suis confronté à des choses que je n'ai jamais vues par le passé, mais bizarrement les gens voient quelque chose chez moi que je ne perçois pas, saisissent quelque chose chez moi que je ne perçois pas, et ainsi elle voit les gens dont le cœur s'incline envers elle, et elle voit le Seigneur l'élever par rapport à ces différents défis professionnels qu'elle a. Vocabulaire pour expliquer que les talents, les dons, les habiletés qu'on a viennent de l'onction du Saint-Esprit, viennent de la part divine que Dieu communique en nous. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons saisir. Il y a de bien meilleurs orateurs que moi, il y a de bien meilleurs prédicateurs que moi, il y a des gens qui savent aligner les mots comme je ne saurais jamais le faire, mais Dieu me donne une certaine grâce pour présenter sa parole et qui fait qu'il bénit le peuple. Et je sais que ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mes qualités humaines, ça ne vient pas de mes efforts stricts humains, même si le travail n'est pas à négliger, mais ça vient à la base d'un appel, à la base d'une onction, à la base d'une grâce que Dieu accorde et qui permet de faire ce qu'on doit faire. Ceux qui me connaissent savent que je suis archi terriblement, viscéralement, maladivement timide. Je vous ai déjà donné des exemples pour illustrer la chose. Prenez ma parole pour acquise. Je suis terriblement timide. Foncièrement, je ne devrais pas faire ce que je suis en train de faire avec vous depuis 7 ou 8 mois avec les bénédictions matinales. Je serais plutôt de celui qui va se terrer dans son coin et qui va être tout tranquille, tout seul. Logiquement, le dimanche matin, je ne devrais pas être à l'aise de me trouver sur une tribune en train de prêcher et d'annoncer la parole et de le faire à l'occasion avec beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotion et beaucoup d'explosion, on va dire. Ma nature à moi serait très tranquille dans mon coin et puis j'écoute les autres parler et je ne serais pas à l'avant-scène. Mais la grâce de Dieu fait en sorte que quand je passe sur la tribune, la grâce de Dieu se manifeste. La grâce de Dieu fait en sorte que quand j'appuie sur le bouton pour démarrer la caméra, la grâce de Dieu se manifeste et la grâce de Dieu vient opérer à travers moi. Je sais que ce que je suis vient de la grâce de Dieu, mais cette grâce va venir, ces talents vont venir lorsque nous, on prend le temps effectivement de méditer les enseignements, les préceptes et de laisser toute la place nécessaire à la vérité dans notre vie, à la fidélité dans notre vie envers Dieu et aussi à la bonté que Dieu veut dégager à travers nous. Donc il nous dit que si on a effectivement le Torah, le Mitzvah, le Chesed, le Emet, donc les enseignements, les préceptes, la bonté et la fidélité, qu'on aura grâce, une raison saine, et de surcroît à cela, il nous dit devant les hommes et devant Dieu. il est possible d'avoir grâce devant les hommes. Il y a certaines personnes qui ne voient que la confrontation entre le royaume de la lumière, le royaume de Dieu, et le royaume des ténèbres, le royaume du diable. Oui, on est en perpétuel combat contre le diable, nous sommes en perpétuel combat contre l'ennemi de nos âmes, qui est Satan, mais il nous est aussi permis d'avoir grâce devant les hommes. La parole de Dieu nous montre de certains de ces hommes qui ont obtenu grâce dans des situations difficiles, dans des contextes demandants, dans des contextes qui étaient assurément pas agréables ou plaisants, mais qui ont obtenu grâce. Pensez à Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères, emporté comme esclave jusqu'en Égypte, et qui va se retrouver injustement en prison, mais ce faisant, il va quand même aboutir à être le premier confident et le premier conseiller du Pharaon, qui va non seulement permettre à l'Égypte de s'enrichir énormément et de prévenir ou de se préparer adéquatement par rapport à une famine qui va frapper le Proche-Orient et qui est Joseph va être donc une bénédiction élevée, ayant la faveur, ayant une grâce devant les hommes, en commençant par le roi d'Égypte. On a Daniel avec qui va se passer la même chose. Daniel, ça va être non seulement avec Nebuchadnezzar, mais ça va être aussi avec Darius, donc auprès de deux rois différents, deux rois importants. Daniel va obtenir grâce. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les préceptes et les enseignements de Dieu croître en lui, et parce que dans ses actions, il n'a pas été du genre belliqueux, il n'a pas été en constante opposition et en constant conflit avec ce qui se faisait autour de lui. Lorsqu'il devait affirmer clair et net sa foi, il l'a fait, mais jamais dans une espèce de combat avec les autres. Il affirmait tout simplement sa foi. Donc il y a une manière que Daniel usait pour exprimer sa foi, et il vivait avec la grâce et avec l'approbation des gens qui avaient autour de lui. Donc on peut avoir effectivement mentionné dans la Bible cette approbation des hommes, de l'humain et du peuple, de la population. Pour ceux qui se demandent quel est le terme pour homme dans l'hébreu, dans notre texte, pour ceux qui prennent des notes, c'est le terme Adam, comme Adam, le premier homme parmi les hommes. Donc Adam, A-D-A-M, A-D-A-M. Mais il nous dit aussi, vous obtiendrez faveur, grâce, raison saine aux yeux de Dieu. Et Dieu ici, c'est le terme Elohim, E-L-O-H-I-M, je répète, E-L-O-H-I-M. Et le terme Elohim, c'est différent de Yehovah. Yehovah qui veut dire le seul vrai Dieu. Elohim a un autre sens. Oui, on parle toujours du même seul et véritable Dieu, mais on parle ici, dans Elohim, on a cette notion du juge, du propriétaire et du dirigeant. Donc il y a cette notion d'autorité et cette notion de celui qui rend des jugements par rapport à ce qu'il voit, par rapport au fait qu'il y a devant lui. Donc ici, Salomon était en train de dire, mon fils, reçois l'enseignement. Cet enseignement-là va te permettre d'acquérir de la grâce et une raison saine. Tu vas avoir l'opinion favorable des gens autour de toi et de Dieu, qui va juger tes pensées, qui va juger ton comportement, qui va juger ton fort intérieur, qui va juger de la véracité de ton engagement envers lui, qui va juger de la véracité de ta bonté, de ta grâce, des sentiments que tu as envers ceux qui t'entourent, notamment envers tes ennemis et tes adversaires, mais aussi envers ton prochain, envers ton frère et ta sœur. Donc Dieu juge nos actions. Dieu juge tes actions, il prend note de chacune de tes actions, et assurément, si vous êtes comme moi, et je pense que vous l'êtes, c'est pas tout ce que vous faites en une journée qui glorifie Dieu. Ce n'est pas toutes les attitudes que vous manifestez en une journée qui glorifient Dieu. Ce ne sont pas toutes vos réactions que vous avez en une seule journée qui réjouissent Dieu. Je vous assurerai que parfois, lorsque je suis dans la voiture et que quelqu'un conduit mal autour de moi, il me coupe. Habituellement, c'est pas la bénédiction de Dieu que je veux envoyer sur la personne. Habituellement, un bon coup de klaxon et puis deux, trois pensées, voire même quand il n'y a pas trop de monde autour de moi, une ou deux paroles, et puis je suis pas en train de dire que Dieu te bénisse. Je dirais pas que je dis des grossièretés non plus, mais c'est assurément pas la bénédiction de Dieu que j'envoie sur cette personne. Mais ça, Dieu en prend note aussi. Et assurément, le pasteur a besoin de changer là-dessus aussi. Lorsque quelqu'un le coupe sur l'autoroute, lorsque quelqu'un roule mal devant lui, le pasteur devrait apprendre, Florence, ce n'est pas ton adversaire. C'est un homme qui a besoin de Jésus ou c'est une femme qui a besoin de Jésus. Appelle la présence de Dieu dans son véhicule et envoie la bénédiction de Dieu sur sa vie et sur sa famille et appelle qu'il puisse rencontrer le Seigneur physiquement le plus tard possible, mais qu'il puisse le rencontrer comme son Seigneur et son Sauveur dans les plus brefs délais. Ça devrait être ça, notre attitude. Notre juge, notre Seigneur nous juge. Notre Seigneur nous regarde, notre Seigneur soupèse hein, quel a été l'effet du Torah, du Mitzvah, du Kesed et du Emet dans nos vies. Donc, est-ce que les enseignements de Dieu sont vraiment ancrés en toi, ancrés dans ta pensée? Est-ce que les préceptes de Dieu n'ont plus le code de conduite, mais le code moral de Dieu? Est-ce que c'est ça qui guide ta propre morale? Est-ce que c'est ça qui guide tes propres agissements? Est-ce qu'effectivement tu as la bonté débordante qui se manifeste en envoyant la main pour dire que Dieu te bénisse à celui qui vient de te couper, en disant simplement merci à celui que toi tu as coupé? Est-ce que tu as aussi le émettre la vérité, la fidélité dans ce que tu fais? Est-ce que ton fort intérieur est en parallèle juste et adéquat avec les paroles que tu prononces en disant que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu, que le Seigneur est ton maître, ton Père, ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que ça cadre ou il y a une distorsion entre ce qui est à l'intérieur et ce que tu exprimes avec ta bouche? Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va s'arrêter là. On va prier, on va remettre cette journée entre les mains du Seigneur et lui demander qu'effectivement il nous donne grâce auprès des hommes et auprès de lui, qu'il nous permette d'avoir cette raison saine, cette façon de penser qui émane directement du trône de grâce et qui nous accorde faveur devant lui et devant les hommes. Alors merci Seigneur encore une fois pour ta parole. Merci pour ces enseignements qui, nous l'espérons, produisent des changements, nous amènent à nous confronter à nous-mêmes, nous amènent à nous confronter face à nos mauvais penchants, à nos mauvaises réactions et apporter, Seigneur, tous les changements nécessaires dans notre vie. Et te laisser aussi la place, Seigneur, pour éclairer encore davantage notre fort intérieur et pour mettre à la lumière, Seigneur, ce qui ne te glorifie pas en nous, pour que nous puissions abandonner, nous défaire, délaisser ces choses, Seigneur, que tu n'apprécies pas en nous. Alors merci, Seigneur, pour ce temps que tu prends avec nous. Merci pour ces enseignements que tu nous prodigues. Et merci, Seigneur, pour le fruit que chacun de ces enseignements va produire dans la vie de ma sœur et de mon frère. J'appelle, Seigneur, ton onction, afin que celle-ci, Seigneur, puisse baigner les paroles qui ont été partagées ce matin. Que nous soyons des gens, Seigneur, qui sont remplis de joie, rempli de grâce, rempli de bonheur dans nos paroles, dans nos actions, dans notre attitude, que ce ne soit pas un bonheur qui est forcé, mais qu'on ait le bonheur tout simple et facile, tout simplement du fait que nous savons que nous sommes tes enfants, que nous savons que nous avons été rachetés, que nous savons que nous sommes en direction de l'éternité en ta présence. Et juste à cela, Seigneur, on devrait avoir un sourire perpétuel greffé sur notre visage. Permets-nous, Seigneur, d'avoir aussi un séquel taube, avoir une raison saine, d'avoir, Seigneur, un raisonnement, une compréhension, une prudence, d'avoir les connaissances qui sont justes et qui sont influencées par ta parole, influencées par ta personne, ô Dieu, afin d'avoir grâce devant les hommes et devant toi. La Bible nous dit que lorsque Jésus grandissait, il grandissait en stature et en grâce devant les hommes et devant Dieu. Qu'il en soit de même, Seigneur, pour nous, que nous puissions croître en grâce devant les hommes, mais aussi, Seigneur, devant toi. Et ce n'est pas nécessairement tout le temps dichotomique, ce n'est pas nécessairement tout le temps en opposition. Permets-nous, Seigneur, d'être les meilleurs nous-mêmes avec la grâce et l'onction que tu nous accordes. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, j'appelle ta bénédiction sur mon frère, et je place leur journée sous le contrôle de ta main toute-puissante. Permets-leur, Seigneur, de te voir agir à travers eux, pour eux et par eux. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on va saluer quelques personnes ce matin. Je vais reprendre mes lunettes. Juste remonter un peu. Donc, la dernière personne qu'on avait saluée, c'était la sœur Sony. Donc, on la salue encore une fois. Bonjour à Farley, Marie-André. Bonjour à Eric. Bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à Sylvie. Bonjour à Ramon. Bonjour à Evelyn. Bonjour à Jimmy. Bonjour à Diana. Bonjour à Maggie. Bonjour à Adriana. Bonjour à Yolène. Bonjour à Michel. On est content de te voir avec nous, Michel. On a prié pour vous hier et avant-hier, première journée de retour au travail. Donc, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Bonjour à Denise, bonjour à ma mère, on a salué mon père tout à l'heure, donc on salue ma mère aussi. Bonjour à Aniris, bonjour à Florie et à Louis, bonjour à Lucie, bonjour à Andrés et à son épouse. Voilà, là. Alors c'était tout pour ce matin, on se retrouve donc demain matin pour notre dernière bénédiction matinale. Vous savez que le vendredi, on vous invite à être dans le jeûne et la prière tout au long de la journée. Donc, pour ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, on vous invite à être, c'est ça, dans le jeûne et la prière. Et puis, on se retrouve donc demain matin à 8h30, puis demain soir pour un temps de prière et d'intercession à partir de 19h vendredi soir. Donc, sur ce, je vous salue. Je vous souhaite une bonne journée, que la grâce de Dieu vous accompagne et soyez remplis de cette raison saine que Dieu veut vous voir manifester. Bonne journée à tous, au revoir.